Voilà, mes amis, on va reprendre aujourd'hui notre cours sur Daniel. On est arrivé au sixième chapitre et on arrive au début du règne des Perses. Et à cette époque-là, c'est le roi Darius qui a le pouvoir en Perse. Il ne sera pas roi très très longtemps, comme on va le voir, parce qu'il va tomber, il va mourir à l'occasion d'une bataille que les Perses livrent un peu partout au Proche-Orient pour conquérir tous ces territoires. Et il va être remplacé par Cyrus. On en parlera en sortant. Et pour l'instant, c'est le roi Darius qui règne. Et comme on l'a vu dans le précédent cours, la Perse vient de conquérir toute la Babylonie. Et finalement, elle devient, comme on l'avait vu dans le rêve de la fameuse statue interprétée par Daniel, la statue qu'avait rêvé Nabucodonosor, que les Perses seraient la deuxième civilisation qui régnerait. Et après, ça sera les Grecs, et après les Romains, le monde occidental, jusqu'à la délivrance finale. Donc, dans le sixième chapitre, on parle donc du début du règne des Perses, de Darius, sur tout ce qui était plus ou moins à cette époque-là le monde civilisé. Et on va une fois de plus répéter ce que j'ai l'habitude de dire et je ne m'en lasserai jamais. Il ne faut jamais, jamais, jamais oublier que le nar, excusez-moi la traduction en français, c'est un gros mot, mais je n'ai pas le choix, la Bible, le nar n'est pas un livre d'histoire. Il était une fois nos ancêtres, les Hébreux. Le nar est une lumière qui éclaire toutes les générations. Bon, je préfère dire le mot Torah, parce que sachez qu'en hébreu, le mot Torah n'inclut pas seulement les cinq premiers livres de la Torah qui ont été écrits par Moshe. Le mot Torah, en vérité, englobe toute la Torah, ce qu'en français on appelle la Bible. Et la Torah est une lumière, comme il est écrit Torah Or. La Torah est une lumière qui éclaire toutes les générations. C'est-à-dire que les histoires racontées dans la Torah sont des histoires qui mettent en évidence la situation dans laquelle se trouve le monde dans chaque génération. Et c'est la raison pour laquelle, si la Torah avait dû expliquer ce qui se passait, même dans le contexte biblique à ces époques-là, on aurait 350 millions de livres. Et finalement, la Torah s'étend depuis la création du monde jusqu'à la fin de ce qu'on appelle la Bible, c'est à peu près 2000 ans, j'espère que je ne me trompe pas. Et vous imaginez ce qu'on pourrait écrire en 2000 ans. Et pourtant, bon, toute la Bible, c'est un immense livre de plusieurs milliers de pages, mais bon, comme ça. Donc si c'était vraiment l'histoire qu'on raconte, on aurait pu rajouter dans la Torah énormément, énormément, énormément d'histoires qui se sont passées à l'époque d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, et à plus forte raison dans la Bible elle-même. Or, 2000 ans d'histoire contenues dans un gros, gros livre, ça prouve bien que la Torah n'a choisi que les histoires qui sont éternels, ça veut dire qu'ils transmettent des messages valables, authentiques, réels, dans chaque génération. C'est pour ça que la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est la lumière qui éclaire toute l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors évidemment, la Torah transmet ses messages éternels à travers des histoires de l'époque, mais nous devons toujours comprendre que l'histoire racontée n'est qu'un habit qui cache un message qui est lui éternel. Alors on va commencer, comme on a l'habitude de le faire, à expliquer le sixième chapitre, à le lire, le traduire, enfin je ne vais pas le lire, je vais directement le traduire en français. Au fur et à mesure on va expliquer et vers la fin du cours je reprendrai un ou deux points très importants pour transmettre un message important. Alors, Darius prend le pouvoir et les Perses connaissaient Daniel. Le monde entier avait entendu ce que Daniel avait fait à l'époque de Nabucodonosor, à l'époque de son fils Belshazzar, et son nom était répandu dans toutes ces régions. Tout le monde avait entendu parler de la grandeur inimaginable de Daniel, qui n'avait pas une grandeur qui était uniquement, comme on le sait, sa propre intelligence. C'était une connexion inimaginable qu'il avait avec le maître du monde, qui permettait au maître du monde de déverser en lui des visions, des compréhensions, des explications que aucun homme avec sa propre intelligence, aussi grande soit-elle, ne pouvait atteindre. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'esprit prophétique. Il était connecté à une dimension intellectuelle, à une dimension de sagesse qui dépasse complètement l'entendement humain. Et son nom avait fait le tour de toute la région, de tous les peuples, de tous les pays. Tout le monde avait entendu parler de Daniel. Et donc, l'une des premières choses que va faire Darius lorsqu'il va conquérir la Babylonie, c'est de tout de suite prendre contact avec Daniel, le connaître, discuter avec lui, s'assurer que tout ce qu'il a entendu, puisque lui n'avait encore jamais vraiment vu Daniel, s'assurer que tout ce qu'on disait sur Daniel était vrai. Et tout de suite, il va être complètement séduit, complètement ébloui par la grandeur inimaginable de Daniel. Et il va construire son royaume de la manière suivante. Il va nommer 120 princes qui vont gouverner l'ensemble des pays qui avaient été conquis par les Perses pour l'instant. Plus tard, ils vont conquérir d'autres, mais à l'époque, 120 princes suffisaient. Au-dessus de ces 120 princes, il avait nommé 3 princes qui sont au-dessus de ces 120. Et parmi ces 3, il y avait Daniel. Et le roi, Darius, était tout en haut. Donc il y avait Darius tout en haut, comme une pyramide. Il y avait 3, les plus grands princes du pays, les plus intelligents, les plus sages, bien sûr, ceux auxquels Darius avait une confiance absolue. Il n'avait pas nommé n'importe qui, il fallait aussi qu'il ait une confiance absolue en eux. L'un des 3 était Daniel, et en dessous ces trois-là, 120 autres. Alors comment fonctionnait le gouvernement? Les 120 rapportaient leurs questions, leurs problèmes aux 3. Les 3 étaient censés résoudre tous les problèmes transmis par les 120, et une fois que les problèmes étaient résolus, ils se présentaient devant Darius, lui expliquaient quels étaient les problèmes et comment ils ont été résolus, et Darius devait donner, on pourrait dire, c'est lui qui devait signer, ça veut dire il devait accepter finalement tout ce qui s'était passé, puisque finalement les 3 n'étaient eux-mêmes que des serviteurs de Darius. Donc le dernier mot était à Darius. Bon, généralement, une fois que les 3 dont Daniel faisait partie avaient résolu les problèmes apportés par les 120, c'est clair que Darius allait accepter lui-même. Mais disons que c'est comme ça que ça fonctionnait. Le problème qui s'est passé très très vite, c'est que Daniel lui-même, parmi non seulement les 120, c'est évident, mais même parmi les 3, se démarquait constamment de plus en plus. Ça veut dire que très très souvent, il y avait des questions qui étaient amenées par les 120 ou une partie des 120 princes qui gouvernaient l'ensemble des pays conquis par la Perse. Et parmi les 3, très souvent, celui qui arrivait tout de suite à résoudre le problème, c'était Daniel. Et quand les 3 venaient rapporter donc ce qui s'était passé à Darius, évidemment, c'était Daniel qui prenait la parole. Et très vite, Darius a commencé à comprendre que finalement, Daniel devait avoir un autre poste. Et finalement, il a commencé à penser, et ça s'est entendu, parce qu'il le disait à haute voix, bien que le décret n'avait pas encore été véritablement établi et signé, mais il a commencé très vite à laisser sous-entendre que finalement, on allait changer le positionnement du gouvernement. Il y aurait les 120, il y aurait les 3 dont Daniel ne ferait plus partie. Au-dessus des 3, il y aurait Daniel, et au-dessus de Daniel, il y aurait Darius, ce qui veut dire que Daniel deviendrait après Darius le ministre, le prince le plus important de tout le royaume, le seul qui serait directement en contact avec Darius. Bon, vous imaginez que quand l'ensemble des forces qui dirigeaient le pays, les 120, les 3, etc., ont entendu que finalement, ça serait un petit youpin qui prendrait la tête du pays, ça les a rendus fous. Et donc, ils ont commencé à chercher, à voir comment faire tomber Daniel. Alors évidemment, ils savaient que Darius avait une estime, une considération énorme, inimaginable pour Daniel. Et donc, ils ne pouvaient pas, bien sûr, directement aller chez Darius et lui dire « Fiche en l'air ce sale youpin, c'est impossible ». Donc, il fallait trouver toute une stratégie qui permettrait de faire tomber Daniel. Dans un premier temps, ils ont essayé de voir dans sa vie privée comment qu'il gérait son argent, comment qu'il gérait sa propre vie. Est-ce que c'était un homme droit? Est-ce que c'était un homme propre? Est-ce que c'était un homme moral? Est-ce qu'il était vraiment ce qu'il montrait, au point de séduire à ce point le roi Darius? Et ils ont cherché, ils ont fait des enquêtes, ils ont payé des détectives, peu importe, ils ont fouillé toute sa vie, ils n'ont rien, strictement rien trouvé. Impossible de le faire tomber dans le domaine de l'argent, impossible de le faire tomber dans le domaine de l'exercice du pouvoir ou par rapport aux femmes ou d'autres choses, je ne sais pas. C'est un homme droit, droit dans le sens le plus profond du terme. Donc ils se réunissent et ils essayent de trouver un stratège, comment le faire tomber, puisque bon, généralement, la manière la plus facile de faire tomber un dirigeant, c'est de fouiller dans son argent, de fouiller dans sa vie privée, etc. Mais là, ils n'ont rien trouvé. Alors comment faire? Et tout d'un coup, ils ont une idée qu'ils vont déguiser, soi-disant, derrière la volonté de grandir Darius et d'en faire un souverain encore plus puissant qu'il ne l'est déjà. Donc ils vont construire une très très belle vitrine qui cache en vérité, évidemment, quelque chose d'autre. Ils vont aller chez Darius et ils vont lui dire, regarde, comme tu commences maintenant à t'étendre en dehors de la Perse sur différents royaumes que tu soumets, c'est évident qu'ils ne sont pas tous là en train de te lécher les bottes. C'est évident que beaucoup d'entre eux ont peut-être des plans de révolte, etc. Et il serait temps, peut-être maintenant, lui disent-ils, de vraiment imposer ta royauté d'une manière, entre parenthèses, terrifiante, qu'ils ne s'imaginent pas, qu'ils peuvent faire avec toi ce qu'ils veulent et que demain ils peuvent se révolter ou relancer des guerres et que ça va marcher. Il faut que tu arrives à les terroriser pour pouvoir véritablement imposer ton nom, ta puissance sur tous les peuples que tu as soumis. Alors Darius se dit, oui, je comprends, vous avez effectivement raison, c'est vrai, vous avez une idée ce que je devrais faire, et ils lui sortent la chose suivante, et vous allez comprendre pourquoi. Ils lui disent, regarde, tu vas sortir un décret dans lequel il sera marqué que pendant un mois, aucun homme, aucune femme appartenant à tous ces peuples que tu as conquis n'a le droit de prier son Dieu, de lui demander quoi que ce soit. Si quelqu'un a un problème, il doit venir et se tourner vers toi, comme si finalement il lui glisse à l'oreille, comme si c'était toi le nouveau Dieu de la région. Chose étonnante, Darius accepte. C'est étonnant parce que Darius était quelqu'un de relativement bien par rapport au contexte de l'époque, mais d'un autre côté, comme tout dirigeant qui veut véritablement imposer, asseoir, construire et stabiliser son pouvoir, il comprend qu'effectivement, il est important que tout le monde le considère comme quelqu'un d'extraordinaire dans le sens réel du terme. Il n'est plus ordinaire, il est maintenant d'une puissance inimaginable, et malheur à celui qui osera remettre en cause sa puissance. C'est la meilleure manière de présenter un dirigeant comme quelque chose de surnaturel, c'est d'en faire presque un dieu. Et donc c'est la raison pour laquelle ils émettent l'idée de sortir un décret qui interdira pendant un mois, on ne peut pas interdire plus bien sûr, mais pendant un mois au moins, de manière à ce que tout le monde prenne conscience de ta grandeur, que finalement c'est toi le seul Dieu. Et si quelqu'un a un problème, qu'il s'adresse à toi et pas à ses propres dieux, comme si tu avais remplacé finalement tous les autres dieux. Et ils argumentent d'une manière assez logique, puisque tu es arrivé à conquérir d'autres peuples, donc c'est bien la preuve que leurs dieux n'ont pas pu les protéger, n'ont pas pu les sauver. n'ont pas pu les aider. Et donc finalement, c'est toi le vrai Dieu. C'est toi le vrai représentant du vrai Dieu. Et tu es comme une émanation du vrai Dieu. Donc si quelqu'un veut prier Dieu, ben, qu'il vienne vers toi. Encore une fois, Darius accepte, peut-être pas véritablement dans le sens qu'il se prend pour Dieu, mais dans le sens qu'il y a d'autres moyens que de véritablement asseoir son pouvoir. Et bien sûr, tous les princes et ministres qui sont venus le voir lui font croire qu'en vérité, que c'est pour son bien. Mais en vérité, ils ont une idée derrière la tête. Ils savent tous que Daniel, lui, prie son Dieu tous les jours, trois fois par jour. Il s'était créé dans sa maison, et tout le monde le savait, une pièce qu'il avait transformée en synagogue, si vous voulez. Bon, il priait seul. Et il avait fait construire des fenêtres qui se dirigeaient en direction de Jérusalem. Donc, puisque la Babylonie se trouve du côté est, donc du côté ouest, en allant vers Jérusalem. Et tous les jours, il se mettait à genoux devant cette fenêtre, il regardait vers Jérusalem, et trois fois par jour, il priait le matin, l'après-midi et le soir en direction de Jérusalem. Il priait le Dieu d'Israël, qui est en vérité le Dieu de l'humanité tout entière, comme tout le monde le comprendra au moment de la délivrance. Et donc ils se sont dit, c'est sûr et certain que Daniel, lui, ne va pas renoncer à ses prières, même lorsqu'il va prendre conscience du décret émis par Darius, et comme ça, on pourra amener des témoins qui le verront en train de prier, et on pourra aller dire à Darius, tu vois, Daniel n'accepte pas ton décret. Donc tout le but était de le faire tomber. Je rajoute juste une chose avant de commencer un petit peu à expliquer, que comme on le voit aussi dans la Megillat Esther, à l'époque de Assuérus, le gouvernement perse avait, on pourrait dire, une loi très 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 particulière, dont on parle aussi encore une fois dans Megillat Esther à Purim, c'est que si le dirigeant, le roi, émettait un décret, même si après il comprend qu'il s'est trompé et qu'il veut l'annuler, il ne peut pas. Il y avait une loi fondamentale chez les Perses que tout décret émis par un roi, tu ne peux plus l'annuler. Et donc, c'est ce qu'on verra plus tard à l'époque de Purim, que quand Esther demande à Assuérus « annule le décret de Haman », une fois que Haman avait été pendu et ses fils, Assuérus lui répond « écoute, chez nous, on ne peut pas annuler un décret. Donc je ne peux pas interdire à tous ceux qui ont écouté Haman et veulent vous tuer, je ne peux pas leur interdire de le faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est contourner le décret sans l'annuler et vous permettre de recevoir des armes pour vous défendre. Donc vous pourrez vous défendre que le plus fort gagne. Mais annuler le décret, interdire à ceux qui veulent vous attaquer de vous attaquer, ça je ne peux pas le faire parce que j'ai signé ce décret. » Donc eux savaient aussi que Darius ne pourrait pas annuler son décret. Et quand Darius peut-être prendrait conscience qu'en vérité, il était tombé dans un piège pour pouvoir se débarrasser de Daniel, et il ne pourrait pas annuler le décret. Et donc, ils ont rajouté que tout celui qui sera pris en train de prier son Dieu après que le décret soit émis dans toute la région, à ce moment-là, il sera jeté dans une fosse à lions et il sera dévoré par les lions. À ce moment-là, Darius n'a même pas en tête que Daniel, il le savait, mais il n'y pense pas à ce moment-là. Lui, il est plutôt tourné vers tous ces peuples qui veulent se révolter, qu'il faut soumettre, qu'il faut terroriser. Il ne pense pas à Daniel. Et dans un élan d'excès sans trop de réflexion, il signe le décret. Le décret est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Le décret a été mis partout. Daniel en prend. Il prend conscience de ce décret-là, mais Daniel refuse d'écouter le roi Darius par rapport à ce décret. Daniel, bien qu'il a un respect énorme pour Darius, et le respect que Darius a pour Daniel est encore plus grand que celui que Daniel a pour Darius, malgré tout, il continue à prier. Il ne s'arrête pas. Qu'est-ce que font les ministres ? Ils introduisent, pendant la prière de Daniel, ils introduisent plusieurs témoins, pas que deux, qui se cachent dans sa maison. Et au moment où Daniel prie, il le voit Et tout de suite, ils viennent dire ce qu'ils ont vu aux ministres, et les ministres arrivent chez Darius et lui disent « Darius, on est absolument désolé, mais sache que ton plus grand serviteur est un traître. On a vu que le décret que tu avais signé était chez lui aussi sur sa table, donc il l'a vu, il l'a lu, les témoins l'ont vu, et malgré tout, ça ne l'a pas empêché de continuer à prier. » Et donc, tu vois bien que tu ne peux pas lui faire confiance. Il donne l'impression d'être ton plus grand serviteur. Mais en vérité, toi, le roi, tu émets un décret et lui, il le jette à la poubelle et il continue à prier son Dieu. Darius, à ce moment-là, sombre dans une panique, dans une tristesse inimaginable, pas par rapport à ce que Daniel lui a fait, mais parce qu'il comprend qu'il est tombé dans un piège inimaginable et que finalement, toute l'intention de ses ministres était de se débarrasser de celui dans lequel Darius donnait toute sa confiance parce qu'il était le plus sage et le plus fidèle de tous les serviteurs. Et comment ils sont arrivés à le faire tomber? Et en vérité, Darius se fiche royalement qu'il continue à prier son Dieu parce qu'il sait très bien, Darius, que le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Il était prêt à accepter de se présenter lui comme un dieu par rapport à toutes les idoles servies par tous les peuples qu'il avait dominés. Car à part Israël, tout le monde ne servait que des idoles. Et donc ça, il s'en fiche de briser les idoles. Mais il n'a même pas pensé un seul instant à l'histoire de Daniel et de son dieu qui est le vrai dieu. Et Darius le savait, comme Cyrus le saura aussi, comme on le verra. Et donc il se retrouve dans une situation catastrophique. Et les ministres lui disent, il faut maintenant amener Daniel et le jeter dans la fosse aux lions. Darius commence à leur dire, mais non, vous racontez n'importe quoi, je veux voir vos témoins, je vais enquêter, je veux voir. Bon, très bien, ils amènent des dizaines de témoins. Et Darius se rend compte que les témoins disent la vérité, parce qu'ils expliquent dans les moindres détails ce qu'ils ont vu. C'est pas de l'invention. Donc forcément, ils étaient dans la maison de Daniel pour voir comment qu'il a prié, qu'il se met à genoux. Ils ont même rapporté les mots qu'il disait, etc. Donc c'est clair que ce n'est pas une invention. Mais Darius essaye de repousser, jusqu'à ce qu'arrive le soir. Et les ministres savaient que le soir, Daniel priait une troisième fois. Il renvoie des témoins et il voit à nouveau Daniel prier. Les témoins tout de suite viennent et disent au roi, « Roi, on revient de sa maison !» On peut même te dire les mots qu'il a dit dans sa prière. Il vient à nouveau de prier. À ce moment-là, Darius n'a plus le choix. Il est obligé d'accepter. Il envoie des soldats chercher Daniel. On amène Daniel devant Darius. Et il demande à Daniel, comment se fait-il que tu n'as pas écouté mon décret? Et Daniel lui répond avec la plus grande sincérité. Et il lui dit, Darius, tu peux peut-être t'élever au-dessus de toutes les idoles de cette terre, mais tu ne peux pas t'élever au-dessus du Dieu qui a créé le monde et qui le dirige, et qui n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais qui est ton Dieu aussi, et un jour viendra où tu le reconnaîtras, toi et toutes les nations du monde. Je ne peux pas renoncer à la prière. Darius sait très bien que Daniel a raison, mais il n'a pas le choix, il a signé le décret, et donc on le jette dans la fosse aux lions. Et avant d'être jeté, Darius lui-même dit à Daniel « Que le Dieu d'Israël te sauve et que je puisse te revoir. » Il le dit avec un tel amour, quelque chose d'inimaginable. Daniel est jeté dans la fosse aux lions. On met un grand couvercle sur la fosse pour être sûr qu'il ne s'enfuit pas ou que quelqu'un viendrait pour l'aider à se sauver. Et Darius rentre chez lui. Il refuse de manger. Toute la nuit, il n'arrive pas à dormir. Et le lendemain matin, tout de suite, la première chose qu'il fait, il se lève et il va vers la fosse aux lions. À ce moment-là, il se met à crier « Daniel, Daniel, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ?» Et Daniel lui dit « Oui, mon roi, je suis là. » Un ange est descendu et rentré dans la fosse. Il a fermé la bouche aux lions. Ils sont tous assis à côté de moi. Je suis au milieu d'eux et personne, aucun des lions, pardon, ne m'a fait du mal. Quand Daniel entend ça, il amène tous les soldats, tous les ministres, que tout le monde voit de ses propres yeux, le miracle. Il ouvre le couvert et tout le monde voit Daniel assis au milieu des lions. Les lions, certains ont même leur tête sur ses genoux. Et tout le monde voit ce miracle inimaginable. À ce moment-là, Darius fait appeler tous ceux qui avaient comploté contre Daniel. Il les fait venir, il demande aux soldats de les faire venir, eux, leurs femmes et leurs enfants. Et tous sont jetés, donc Daniel bien sûr est sorti de la fosse. Tous, des dizaines et des dizaines de familles sont jetées dans la fosse et ils sont tous dévorés par les lions. Et après, Darius émet un nouveau décret, comme à l'époque Nabucodonosor, après que Daniel lui a interprété son rêve sur la statue. Et il dit dans ce décret qu'il exige que tous les peuples, y compris le peuple perse, que tous les peuples qui sont sous le règne de Darius vénèrent le Dieu d'Israël, car il est le seul vrai Dieu vivant, présent dans ce monde, et c'est lui que nous devons vénérer. Voilà globalement l'histoire, et je voudrais maintenant revenir sur quelques points. D'abord sur un point que vous connaissez tous et toutes, mais qui est un point important. Encore une fois, comme je l'ai dit au début de ce cours, la Torah n'est pas un livre de l'histoire de nos ancêtres, les Hébreux, mais c'est la lumière qui éclaire le monde jusqu'à l'infini, et bien après encore la délivrance finale. On voit ici quelque chose que l'on sait tous, mais qu'il faut redire. Combien le monde politique est corrompu? Combien les politiciens sont des ordures? Parce que derrière la belle vitrine que on veut ton bien, Darius, on veut que tu puisses régner véritablement et que personne ne pense à se révolter contre toi, il faut que tu t'imposes avec force, avec puissance, il faut que tout le monde te craigne. Nous, ce qu'on veut, c'est ton bien, c'est qu'on veut la réussite de ton royaume, on veut que la Perse continue à régner pendant des millénaires sur le monde entier. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour toi, notre roi. Et en vérité, tout ce qu'ils font, c'est pour tuer Daniel. Uniquement pourquoi? Pour servir leur ego, leur orgueil, leur pouvoir personnel. Ils ne supportent pas que quelqu'un puisse être au-dessus d'eux, à part le roi bien sûr, parce que là ils n'ont pas le choix, et à plus forte raison un sale youpin pour qui il se prend celui-là. C'est impossible. Et donc ils déguisent leur volonté de se débarrasser de celui qui les dérange, en faisant croire au roi que finalement tout ce qu'ils font c'est pour leur bien. Alors ça, bien sûr, tout le monde le sait, mais malheureusement, tout le monde l'oublie. Les choses fonctionnent de cette manière-là jusqu'à aujourd'hui. Dès que quelqu'un rentre en politique, il est forcément corrompu. Il sombre totalement dans le culte de l'ego, dans le culte du pouvoir, et fera toujours tout pour se débarrasser de tous ceux qui le dérangent. Il n'y a strictement, absolument, aucune exception à cette règle. Pourquoi? Parce que si c'est moi qui le disais, alors je ne suis pas parfait. Mais là, c'est la Torah qui le dit. Si la Torah nous raconte cette histoire, et que comme elle est dans la Torah, elle est forcément éternelle, la Torah ici nous décrit ce qu'est le pouvoir. Elle nous montre que le pouvoir, c'est en vérité uniquement le culte de l'ego. Et tout celui qui me dérange, je ferai tout pour le virer, pour l'assassiner, c'est comme ça que ça fonctionne partout. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est comment la Torah a le courage de nous montrer, même à l'époque où c'était encore des dictatures, comment malgré tout, ceux qui veulent se débarrasser de ceux qui les dérangent font tout pour présenter une idéologie, une vitrine magnifique. Ben, c'est exactement ça la démocratie, comme je dis toujours, la plus cruelle, la plus sale, la plus obscure de toutes les dictatures, c'est la démocratie. Parce que la vitrine est tellement belle que personne ne peut imaginer ce qui se cache derrière. Quand tu as un Staline ou un Hitler qui te dirige, bon, bah, tu ne te poses pas de questions. C'est de la pourriture du début jusqu'à la fin. Mais quand tu as un tel et un tel et un tel au nom de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, la statue de la liberté et toutes ces honneries-là, et que l'image est tellement belle, la vitrine est tellement belle, les discours sont tellement waouh. Comment tu peux imaginer que tu as affaire à des Hitler et à des Staline? C'est très dur. Et je sais qu'aujourd'hui, 90% de ceux qui m'écoutent ne me croiront pas. Mais viendra un jour où tout le monde comprendra. Tout le monde comprendra que les plus grands dictateurs de la Terre étaient précisément ceux qui étaient à la tête de la démocratie. Et c'est exactement ce que l'on voit ici. Ils ne sont pas venus lui dire « Allez, fous en l'air ce sale Youpin !» Non ! Ils viennent, ils ne veulent même pas parler de Daniel. Roi, on veut voir ta puissance, ta grandeur. On veut t'honorer. Tout ce qu'on fait, on le fait pour toi. Mais derrière tout ça, on veut uniquement se débarrasser de quelqu'un qui nous met un petit peu dans l'ombre. C'est comme ça que ça fonctionne. Deuxième remarque extrêmement importante, c'est que Cyrus, d'une certaine manière, est tombé dans le piège, Darius, alors qu'il avait un amour fou et un respect fou pour Daniel. Et Darius savait que Daniel priait tous les jours. Comment se fait-il qu'il n'a pas pensé à que finalement, mais attends, mais il y a un problème. Je ne peux pas demander à Daniel de ne pas prier, c'est impossible. Comment se dit que ça ne lui est même pas monté à l'esprit? Et de là aussi, on voit, la Torah nous transmet un message extraordinaire, que parfois, même un dirigeant bien, malgré tout, ne pourra pas échapper à ce genre d'erreur fatale. Pourquoi? Parce que lui aussi ne s'est pas complètement purifié du culte de l'ego. Ça veut dire que non seulement les ministres qui étaient de véritables crapules, eux, c'était que l'ego, mais même Darius, qui était en soi un homme bien, puisqu'il était prêt à placer pratiquement comme son second, le dirigeant de tout son empire, plaçait finalement un juif. Et il était prêt à le faire. Mais d'un autre côté, quand les ministres ont su flatter son ego, ont su mettre en évidence son besoin de puissance et de respect de la part de tous ceux qu'il avait dominés, ça l'a aveuglé et il a complètement oublié Daniel. De là, on comprend une fois de plus, mes amis, qu'on ne peut faire confiance à aucun dirigeant, nulle part dans le monde. Parce que même si au départ il a des qualités, il est quelqu'un de bien, dès que son ego sera en jeu, il oubliera tout et il se comportera comme un idiot. Et c'est malheureusement ce qu'on voit dans tous les pays. Tant qu'un dirigeant bien fonctionne et que personne ne l'embête et que ça va, il est bien. Mais dès que tout d'un coup, il a tout d'un coup la justice qui lui tombe sur la tête ou des ennemis, etc., il perd la raison, il devient fou et il devient un nouveau Staline. Personne n'a jamais échappé à cette règle-là. Tu prends un dirigeant, même le meilleur du monde, qui est vraiment bien, mais s'il a fait une erreur dans sa vie et tout d'un coup il est convoqué en justice, il a des jugements sur la tête, etc., il devient une sale ordure. Et c'est ce qui s'est passé avec Darius. Il a complètement oublié Daniel. Et il va être obligé lui-même de le jeter dans la fosse au lion pour sauver son pouvoir. Puisque selon les règles perses, tu ne peux pas revenir sur tes décisions, sinon tu n'es plus un roi. Donc finalement, pour sauver son pouvoir, ben, il est prêt à jeter Daniel dans la fosse. Alors qu'il est malheureux, puisque il ne va pas manger, il ne va pas dormir, etc. Mais il n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que son pouvoir et, d'une certaine manière, son ego sont au-dessus de même l'amour qu'il porte pour Daniel. Ce message est tellement fort, mes amis. Il est tellement fort, mes amis. Quand allons-nous arrêter une fois pour toutes de donner notre crédit et notre confiance à nos dirigeants? 99% d'entre eux sont dès le départ des crapules. Et 0,1% qui ne le sont pas dès le départ, dès qu'ils sentent que leur pouvoir est remis en cause, ils deviennent eux aussi des crapules. Donc, et c'est l'histoire humaine depuis le début de l'histoire humaine. Voilà le message extraordinaire. Et je terminerai par un autre message fabuleux. La émouna, la confiance incroyable, surnaturelle de Daniel dans le vrai Dieu. Et ça, c'est mesure pour mesure. De la même manière que dans cette histoire, on nous montre que finalement, tout tourne autour du culte de l'homme, Daniel, lui, est arrivé à être la contrepartie de ne placer sa confiance qu'en Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Ça veut dire qu'on a d'un autre côté les ministres qui veulent liquider Daniel parce qu'il leur fait de l'ombre. On a le roi Darius qui est un bon roi, mais quand il sent que son pouvoir est en danger, il oublie tout le monde, même ses plus grands amis comme Daniel. Et d'un autre côté, on a Daniel qui, lui, voit le décret, sait qu'il risque sa vie. Il a lu clairement qu'il allait être jeté dans la fosse aux lions. Mais il dit non, moi j'abandonne pas ma confiance en Dieu pour servir un homme. Mes amis, ici on a une fois de plus un message extraordinaire de la description de la véritable Emouna. La Emouna, c'est pas je crois en Dieu, c'est pas j'accomplis les commandements, c'est pas de la Emouna ça, ça c'est de la religion, c'est de l'église, c'est rien. La Emouna, c'est quand tu es prêt à risquer ta vie pour ne pas remettre en cause ce à quoi tu crois de toutes tes forces. Daniel savait très bien que c'est une question d'heures et de jours. Il savait très bien que tous les ministres le détestaient. Vous pensez que quelqu'un comme Daniel, qui a interprété les choses qu'il a interprétées, n'a pas tout de suite compris que ce décret était uniquement pour le prendre lui et le jeter dans la fosse aux lions? Mais il l'a compris avant de le lire. Alors pourquoi il continue à prier? Pourquoi? Parce que pour nous faire comprendre que la vraie Emouna, c'est pas je vais à la synagogue, c'est pas j'étudie, c'est pas je prie. La vraie Emouna, c'est que tu ne renonces pas à elle, même quand tu es sûr et certain que tu vas mourir. Sauf si Hachem te fait un miracle. Mais comme disent nos maîtres, il est interdit de se mettre dans une situation où tu sais à l'avance que tu ne pourras être sauvé que grâce à un miracle. Donc Daniel n'espère pas être sauvé, c'est pas son truc. Si Hachem veut faire un miracle, qu'il m'en fasse un, mais c'est pas moi, c'est pas mon truc. Moi, une chose est sûre, je ne renonce pas à ma Emouna en Hachem. Vous voulez me jeter au lion, jetez-moi au lion. Ça ne me dérange pas. Mais ma Emouna, elle est plus forte que toutes vos idées perverses. Comme je dis toujours, à l'inverse de cette ordure française qui avait dit « Mieux vaut mourir, mieux vaut vivre à genoux que mourir debout. » Un homme authentique dit « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. » Oui, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Et ça, c'est la véritable Emouna. Il faut qu'on arrête une fois pour toutes de croire qu'on est des croyants parce qu'on croit en Dieu ou parce qu'on mange kasher ou parce qu'on va à l'église le dimanche ou à la synagogue le Shabbat. C'est pas de la Emouna, ça. Ça, c'est du rituel, c'est de la religion. La véritable Emouna, c'est uniquement la Emouna qu'on voit chez Daniel. Tu es prêt à risquer ta vie pour ne pas renoncer à ton Dieu, pour ne pas renoncer à ce que tu crois? Oui, la vraie Emouna, ce sont ces centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui, pendant l'Inquisition, sont montés sur le bûcher pour ne pas renoncer à leur croyance. Ça, c'est la véritable Emouna. La véritable Emouna, c'est ce qui s'est passé, entre autres, comme je le raconte souvent, là où est enterré Rabbi Nachman à Ouman. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, les Cosaques sont arrivés, ils ont planté une grande croix au milieu de la place publique, ils ont rassemblé tous les Juifs de la région, ils les ont fait passer devant la croix. Ah, il y avait deux Cosaques derrière la croix avec deux sabres. Tout celui qui ne se prosterne pas devant la croix, il est décapité. Plus de 100 000 hommes, femmes et enfants ont été décapités. Pas un a accepté de se prosterner devant une croix. Ça, c'est la Emouna. Ça, c'est la véritable Emouna. En dehors de ça, c'est que de la religion. C'est que du bidon. Il n'y a rien. Donc, en vérité, on n'est pas toujours, nous tous, testés sur notre Emouna. Donc, on ne sait pas si on a véritablement la vraie Emouna. Parce qu'on n'est pas confronté à cette situation dans laquelle s'est retrouvé Daniel. Mais seulement à ce moment-là, tu peux dire que tu es la Emouna. C'est pour ça que tout de suite après, Darius a fait envoyer ce décret comme quoi il demandait à tous ceux qu'il dominait de respecter le Dieu d'Israël, car il dit à la fin du sixième chapitre, « Car c'est le seul vrai Dieu. » Pourquoi? Puisqu'on l'a vu réagir. On l'a vu sauver Daniel. Mais à quelles conditions? Que Daniel avait une vraie Emouna. Mes amis, notre combat dans ce monde de méchants, dans ce monde de corrompus, dans ce monde de dictature, qu'elle soit déguisée ou non déguisée, notre seule véritable force est une Emouna risquée. Une Emouna qui nous demande de prendre des risques. Ça, c'est la seule véritable Emouna. Tout le reste, c'est de la religion d'église ou de synagogue. C'est pas intéressant. Et donc, Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à vivre ces messages et à devenir de véritables guerriers d'Hashem. Amen, Vechen Yiratzon.